Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, et déjà l'heure des premiers comptes après le Brexit et la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour les jeunes britanniques, le traité a un goût amer. En 2016, lors du référendum, 70% des 18-24 ans voulaient rester au sein de l'UE. Les voilà désormais exclus du programme d'échange Erasmus+. Certes, le gouvernement britannique veut instaurer un nouveau programme intitulé Alan Turing, du nom du célèbre mathématicien, mais il n'aura sans doute pas la force de frappe d'Erasmus, car il s'agit avant tout pour Londres de dépenser moins que pour le programme européen. Reportage de Marie Billon.
Trop cher, a estimé le Premier ministre britannique au regard des 17 000 étudiants britanniques qui ont choisi de partir l'an dernier étudier en Europe avec le programme Erasmus. Un acte de vandalisme culturel, lui a répondu la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon dans un tweet rageur. De fait, avec ses bourses et l'absence de frais d'inscription, le programme Erasmus est un programme pour tous, sans critères financiers. Liv a 17 ans, il est encore au lycée dans le nord-ouest de Londres. Il a prévu d'étudier l'histoire et les sciences politiques à l'université l'an prochain, mais ce sera en Angleterre et pas en Europe. Il ne cache pas sa déception.
Pour moi, perdre Erasmus, c'est vraiment un énorme gâchis. Et cette perte de compétences et de formation sera encore plus douloureuse pour tous les étudiants qui viennent d'un milieu social défavorisé. Grâce à Erasmus, ils auraient eu l'opportunité d'étudier à l'étranger, surtout grâce aux bourses qui étaient offertes. À 17 ans, l'idée d'aller à l'université en Europe était très excitante pour moi. Aujourd'hui, on nous dit que le programme Erasmus va être remplacé par le programme Alan Turing. Mais ça ne remplacera pas l'expérience culturelle d'Erasmus. Je suis effondré.
Pour les Européens venant étudier au Royaume-Uni, tout est aussi une question de moyens. Hors du programme Erasmus, il leur fallait déjà débourser des sommes énormes. 10 000 euros en moyenne pour un an d'études. Avec le Brexit, tous les étudiants européens seront considérés comme des étudiants internationaux. Les frais annuels d'inscription pourraient alors monter jusqu'à 20, voire 30, voire 40 000 euros. Les Européens, par contre, qui ont déjà entamé leur cursus, ne verront pas d'augmentation de leurs frais de scolarité. C'est le cas d'Hippolyte, jeune Français de 19 ans, en deuxième année, à l'école de commerce de l'université de Warwick, à l'est de l'Angleterre, la Warwick Business School.
Les anglo-saxons aiment beaucoup signer des contrats. Sur UCAS, qui est l'équivalent du Parcoursup français, et donc il y a déjà deux ans, plus de deux ans même, j'ai signé un contrat avec la Business School de Warwick, stipulant que je devenais leurs élèves dans la Business School pour les 3 ou 4 prochaines années et que je paierais le prix X. Donc moi, jusqu'à la fin de mon bachelor, le prix de ma scolarité ne changera pas, en tout cas pour le bachelor.
La question se posera pour lui s'il veut faire un master, car c'est un nouveau cursus qu'il entamera en 2022. Il sera donc soumis aux frais étudiants des internationaux. La sortie de l'Europe, c'est aussi un autre contexte politique. Ben est franco-anglais, il étudie la politique à l'université de Warwick. Il a préféré abandonner une année d'études prévue aux Pays-Bas.
J'avais l'intention d'étudier en Hollande cette année, à l'université de Leiden. Mais aussi à cause du Brexit, je me suis dit que je ne pouvais pas justifier d'aller à l'université en Hollande parce qu'il y a un système complètement différent. D'essayer de faire un diplôme en Hollande ou en Europe et après de revenir en Angleterre où les entreprises ne comprennent pas nécessairement comment les résultats fonctionnent ou si surtout les entreprises britanniques vont vouloir quelqu'un qui a fait des études dans une université européenne.
Finalement, Ben partira peut-être en Amérique latine. Les frais universitaires et le coût de la vie seront moins chers, dit-il, et il améliorera quand même son espagnol.
Et en Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, 650 étudiants étaient allés passer un semestre ou deux d'études en Europe l'an dernier. Grâce au soutien de la République d'Irlande, les jeunes pourront toujours partir. Les explications à Dublin d'Emeline Vin.
Juste avant la fin de la période de transition, le ministre de l'Enseignement supérieur, Simon Harris, a annoncé que Dublin allait financer la participation de l'Irlande du Nord au programme européen. Montant de l'annonce, un peu plus de 2 millions d'euros par an. Ce n'est pas un coût, c'est un investissement, a souligné le ministre. Un investissement dans la solidarité et la coopération entre les deux Irlandes pour que les Nord-Irlandais puissent, je cite, « conserver certaines opportunités dans un environnement socio-économique incertain ». Pas de critères de passeport pour cette participation. Les Nord-Irlandais peuvent choisir d'avoir la nationalité irlandaise, britannique ou les deux. Tous pourront donc participer. Seule demande, les bénéficiaires devront s'inscrire pour la durée de l'échange dans un établissement irlandais, ce qui coûte plusieurs milliers d'euros. Comme pour le reste des étudiants irlandais, le gouvernement ne devrait pas prendre en charge ces frais d'inscription, seulement les coûts liés à l'échange, comme l'inscription dans l'autre université ou la bourse pour vivre sur place. Tous les détails n'ont pas encore été publiés, le partenariat n'a pas non plus de date de fin. Selon Simon Harris, il durera aussi longtemps que les Nord-Irlandais souhaiteront en bénéficier. Comme le Royaume-Uni prévoit de lancer dès septembre son propre programme d'échange, Turing, l'Irlande du Nord, ancien nœud des négociations, pourrait bien se retrouver avec le meilleur des deux mondes, pour reprendre l'expression anglophone. Les étudiants auraient alors le choix entre les deux programmes.
On les appelle les Brexpats, ces Britanniques qui sont allés vivre dans un autre pays européen, des retraités mais aussi des actifs. L'Espagne compte le plus grand nombre de Brexpats en Europe, 1,3 million. Et ils sont inquiets car aux côtés du Brexit, Londres a aussi instauré le 1er janvier un système d'immigration à points qui pourrait entraîner un certain nombre de difficultés pour les conjoints ou compagnons espagnols de ces Britanniques. Reportage à Barcelone. Signé Élise Gazangel.
L'Espagne accueille la plus grande communauté de Brexpats en Europe. Hier, citoyens européens, ces Britanniques expatriés doivent désormais régulariser leur situation au plus vite et de nombreux cabinets d'avocats les aident dans leur démarche. Le décompte des jours s'affichait depuis des mois sur le site du cabinet d'avocats espagnol Lexidi qui propose d'accompagner ces expatriés perdus dans les démarches administratives. En moins d'un an, leurs clients britanniques ont augmenté de 70 à 80%, mais tous ne seront pas en règle en 2021. Laura Fusté, avocate spécialisée en droit des étrangers à Barcelone.
Le problème se posera pour les Britanniques qui vivent ici, mais qui n'auront pas demandé leur permis de résidence avant le 31 décembre 2020. Et puis, selon les informations que nous avons, les Britanniques qui souhaiteront s'installer en 2021 ou plus tard seront considérés comme non européens et devront demander un permis spécial de citoyens étrangers.
Dès cette année, il existera donc deux types de Britanniques en Espagne. Ceux qui conserveront leurs droits européens et ceux qui seront considérés comme des étrangers non communautaires. Pour les couples binationaux, les changements à venir sont encore plus redoutés. Sarah Bircham, anglaise de 36 ans, installée depuis 11 ans à Barcelone, est en couple avec un Espagnol, mais ils ne sont pas mariés.
Depuis le Brexit, on plaisante souvent sur le fait qu'on va devoir se marier. C'est une blague, mais on se dit que peut-être, à long terme, ce sera plus facile.
Pour cette professeure d'anglais, le principal problème se posera si elle souhaite revenir en Angleterre un jour. Car parallèlement à l'accord sur le Brexit, le Royaume-Uni a introduit à partir du 1er janvier un nouveau système d'immigration à points. Son conjoint espagnol sera donc un migrant comme les autres et le couple devra attester gagner 18 600 livres par an, voire plus s'ils ont des enfants n'ayant pas la nationalité. Avec ce Brexit, il y a moins de futur possible pour elle et sa famille.
C'est une chose de penser que tu ne veux pas vivre quelque part et c'en est une autre de ne pas pouvoir le faire. Ça paraît idiot, mais en fait, on a voté pour avoir moins de droits qu'avant. Mon petit ami n'a pas envie de vivre en Angleterre et moi, je vois mon futur ici pour l'instant. Mais par exemple, si l'un de mes parents tombe malade et que je veux y aller sur mes deux mois de vacances d'été, je pense que je ne pourrais pas rester autant de jours ou de semaines là-bas et c'est quelque chose que je voudrais faire plus tard.
Suzanne Thompson, écossaise quinquagénaire installée depuis 26 ans en Catalogne, est du même avis.
C'est choquant pour moi que l'on refuse à une famille la chance de retourner au Royaume-Uni, là où l'un des deux est né, parce qu'il est marié à un Européen. C'est incroyable et ça ressemble assez à du fascisme pour moi.
Cette Écossaise est mariée à un Espagnol et mère de deux filles nées dans la péninsule ibérique. Son aîné de 24 ans a obtenu le passeport britannique il y a peu suite à ses études à Londres, mais pour la plus jeune, toujours au collège, le futur est incertain.
Elle voudra peut-être étudier en Grande-Bretagne, je ne sais pas, mais ça aura un impact. Elle ne sera plus étudiante européenne et devra sûrement payer plus cher. Et puis, si ensuite elle décide d'y rester, elle aura besoin cette fois d'un visa ou d'un certificat de travail. Tout sera plus compliqué, je pense.
Famille binationale, famille recomposée, famille séparée, les casse-têtes juridiques risquent d'affluer dans les cabinets d'avocats et Laura Fusté craint de ne pouvoir résoudre certaines situations inextricables.
Il y a aussi le cas des proches des Britanniques résidant ici et qui souhaitent les rejoindre après le Brexit. Nous verrons s'ils peuvent demander un permis de résidence en tant que famille de Britanniques européens ou un regroupement familial de citoyens non européens.
À l'évidence, les 1246 pages de l'accord négocié entre Londres et Bruxelles n'ont pas pu passer au crible la multitude de situations familiales des Britanniques vivant aujourd'hui au sein ou en dehors de l'Union européenne.
Et si ce Brexit entraîne forcément une perte économique, culturelle, les dégâts se feront aussi sentir dans le domaine de la coopération militaire. Le Royaume-Uni, deuxième puissance militaire après la France, représente un tiers des capacités de défense de l'Union européenne, soit une composante essentielle pour assurer la sécurité du continent, Franck Alexandre.
Avec la France, la Grande-Bretagne est la seule à disposer d'un modèle d'armée complet. C'est une puissance nucléaire et surtout une puissance navale disposant de deux porte-avions. Mais le Royaume-Uni, c'est aussi une industrie de défense de tout premier plan et forte de plus de 300 000 emplois. L'an dernier, le géant BAE Systèmes était d'ailleurs la seule entreprise d'armement européenne à figurer au sein du top 10 mondial. Si l'on ajoute à cela les compétences technologiques, notamment dans l'aéronautique, tels les moteurs d'avion, que les Britanniques sont les seuls ou presque à maîtriser, il sera difficile pour les Européens d'ignorer le Royaume-Uni. Si les Britanniques n'ont jamais cru dans l'idée d'une défense européenne, ils ne sont pas absents pour autant. D'abord au sein de l'OTAN, des liens étroits existent également avec la France depuis la signature en 2010 des accords de Lancaster House, porteurs d'avancées significatives au niveau opérationnel qui se traduisent par exemple par l'engagement d'hélicoptères de transport lourd de la Royal Air Force au profit de la force Barkhane au Sahel. La coopération industrielle, enfin, reste solide, notamment dans le domaine des missiles avec l'entreprise MBDA. Pourtant, bien que les Britanniques ne cessent de répéter que leur départ ne remet pas en cause leur souhait de jouer un rôle dans la défense de l'Europe, rien dans l'accord conclu entre les 27 et Londres ne concerne la défense. Ils sont absents des trois projets structurants soutenus par Paris et Berlin, que sont le SCAF, l'avion de combat du futur, le programme de chars franco-allemand, ainsi que le projet spatial européen Galileo. Alors, afin de limiter la perte de croissance occasionnée par le départ britannique, l'Europe se trouve donc face à un dilemme, reprendre langue avec Londres ou faire le deuil de l'Angleterre et compter sur ses propres forces militaires.
Retour de vacances pour les plus chanceux, mais la pandémie impacte durement le trafic aérien. Les aéroports réclament donc des aides de l'Union européenne. C'est le reportage de Myriam Bell de la RTBF à l'aéroport de Charleroi, au sud de Bruxelles.
Il y a bien quelques étoiles dorées suspendues au plafond du terminal et deux grands rênes lumineux au-dessus des comptoirs d'enregistrement. Mais ce n'est pas la grande ambiance dans le hall des départs de l'aéroport de Charleroi. Peu de monde.
Tous les passagers en moins, tous les accompagnants en moins, ça fait un silence qui est inhabituel pour nous, quoi.
Ce bourdonnement manque à Lucie Pascal, elle qui a vu cet aéroport régional se développer depuis le temps qu'elle y travaille, grandir au fil des choix de sa compagnie principale, Ryanair.
Et l'image la plus flagrante, c'est l'écran d'affichage des vols. Mais cet écran-là, comme vous pouvez voir, il y a 4 vols seulement sur l'écran, alors que normalement, les deux écrans sont complètement remplis. C'est une situation qu'on n'a jamais vécue.
Ici, on voit au niveau des découvertes, notamment, on voit seulement 2 découvertes.
Arnaud de Coster, collègue de Lucie Pascal, et comme elle, délégué syndical 7K.
Notre activité tourne autour de plus ou moins 25%. Donc, ça fait en moyenne 3/4 du personnel qui est à la maison. Au chômage partiel Corona.
Quel est l'état d'esprit aujourd'hui de vos collègues ?
De l'inquiétude.
Vous avez un ticket pour la poussette ?
Ah, pour la poussette, non.
Et il faut aller au check-in et demander un ticket. Okay.
Un homme traverse le hall clairsemé. Grand, costume ajusté, il salue les quelques collaborateurs de l'enregistrement. C'est le patron de l'aéroport de Charleroi,
Philippe Verdonck.
En février, les vols étaient pleins, c'est aussi simple que ça, donc on tournait à 100%. À partir de la mi-mars, on a vu que ça chutait de 90 à 10, même moins de 10%. Donc nous avons fermé pendant un petit temps, nous avons rouvert en juin. Et là, depuis le mois de septembre, on voit qu'on tourne encore à 26% des chiffres de 2019. Le mois passé, nous étions à 21% des chiffres de l'année 2019. Heureusement, il y a le chômage Corona qui aide et qui fait aussi qu'on garde justement tout le monde dans la rotation pour justement aussi garder cet esprit qui font tous partie de la famille. Tant que c'est possible, je me battrai jusqu'au bout pour qu'il n'y ait personne qui perd son job. Grâce au chômage, notamment, il faut être honnête, mais personne n'a perdu son travail. Ça, c'est quand même très important.
Les passagers, c'est le core business de l'aéroport de Charleroi. Le fret, c'est plus pour celui de Liège, qui trouve au contraire des opportunités dans la crise Covid. Celle notamment d'assurer le transport logistique pour la campagne de vaccination. Mais le site de Charleroi et ses 3000 emplois directs et indirects ont le sort lié au trafic passager et aux stratégies de Ryanair. En Europe, de nombreux autres aéroports subissent la même hibernation. Ils se livraient déjà auparavant à une concurrence âpre. Elle sera renforcée au lendemain de l'épidémie, prévoit l'International Airport Council Europe.
Et on termine cette émission en musique pour un voyage dans les embruns européens d'une Bretagne française. C'est la chronique de Vincent Théval.
Et pour débuter l'année sous les meilleurs auspices, voici une invitation à célébrer un mariage en Bretagne, sur les côtes du Finistère. Plus précisément, un mariage où a été invité le Suédois Jens Lekman pour y donner un concert. Après la répétition, le chanteur se promène jusqu'au port. C'est là que le monde s'achève, lui a-t-on dit, à moins que ce ne soit là où il commence. C'est la réflexion qui lui vient en croisant sur le quai la future mariée, cigarette à la bouche et quelques doutes en tête. Mais rien qu'une conversation, quelques traits d'humour et une belle fête entre amis ne sauraient dissiper, comme le raconte Jens Lekman dans ce « Wedding in Finistère ».
Était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain. Oh, please distract me from every